Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre quatrième conversation avec un des philosophes dans la cité pour explorer les nouveaux modes de l'engagement dans le nouveau monde qui nous attend aujourd'hui. Matière à penser ce soir avec Gaspard Koenig, qui est philosophe, qui enseigne la philosophie et qui a aussi, entre autres activités, fondé un think tank intitulé Génération Libre et qui invente, j'allais dire, un mode d'action, d'intervention dans la cité en cohérence avec une philosophie finalement radicale de la liberté pour aujourd'hui. Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler ce soir.
C'est vraiment un grand plaisir et un plaisir rare.
Vous dites que c'est un plaisir rare parce que effectivement on va avoir le temps de parler. Vous avez l'habitude d'intervenir. Vous êtes connu aussi pour des interventions dans différents types de médias. C'est une de vos activités, on pourrait dire, Gaspard Koenig, mais pas sur le mode qu'on va avoir ce soir.
Non, et c'est d'ailleurs le problème, enfin, je le souligne après beaucoup d'autres, mais enfin, c'est quand même le problème des médias aujourd'hui qui vous force à parler en 15 secondes, à faire des punchlines et finalement qui rendent tout le monde assez malheureux parce que les gens qui connaissent un sujet parlent d'autre chose, les gens qui écoutent ont l'impression de ne pas comprendre. Et donc, il faut avoir le temps de se poser. C'est d'ailleurs ce qui d'ailleurs explique le succès des podcasts.
Mais Gaspard Koenig, est-ce que ça vous fait particulièrement souffrir parce que, disons, vous êtes philosophe, vous avez peu à peu, à travers divers essais, construit une pensée de la liberté, vous inscrivez dans un certain type de libéralisme, on va y revenir, mais assez vite finalement, comme cette position est rarement revendiquée par les philosophes ou par les intellectuels, absolument, on vous a étiqueté l'intellectuel d'un libéralisme assez radical, et du coup... Voilà, l'étiquette, est-ce qu'elle n'en est pas venue à masquer la pensée? On pourrait résumer le risque comme ça.
Ah si, bien sûr, parce que je reprends à mon compte un mot qui a très mauvaise presse dans le débat français, qui a été largement condamné d'ailleurs par les intellectuels et les philosophes français eux-mêmes, qui ont largement contribué à inventer la notion de néolibéralisme, qui en attribue tous les mots. Et comme les gens l'associent en plus directement à l'économie, on me demande d'intervenir sur la crise financière. J'ai assez peu d'idées. Et donc, c'est vrai que réhabiliter ce mot, c'est réhabiliter toute une...
Le mot, c'est le libéralisme. Voilà, c'est pas la liberté, c'est le libéralisme.
Bah, c'est la philosophie de la liberté qui, me semble-t-il, est le libéralisme, qui d'ailleurs, vous le savez, n'a jamais été une doctrine aussi structurée qu'a pu l'être le marxisme ou la phénoménologie. C'est-à-dire que le mot est apparu de manière un peu hasardeuse sous la plume de Maine de Biran. Et puis après, il a été revendiqué par les uns et les autres, à commencer par Flaubert d'ailleurs, qui disait « je suis un libéral enragé ». À l'époque, c'était au 19e siècle un signe de rébellion d'être libéral. Le dernier peut-être à l'avoir assumé avec panache, c'était Jean-François Revel, dont les écrits m'ont beaucoup influencé au tout début de cette construction intellectuelle.
Donc là, le moment où le libéralisme devient une transgression parce qu'il est un petit peu, justement, critiqué d'un peu partout.
C'est toujours, étant un peu contrariant de nature, c'est toujours amusant de reprendre quelque chose que tout le monde déteste. Mais ça va un peu au-delà de ça. C'est aussi d'essayer d'exposer à quel point c'est une philosophie complète de l'individu dans la cité. Qui touche aussi bien aux aspects institutionnels, sociétaux, politiques, et également, mais vraiment pas seulement, économiques.
Mais pour vous, Gaspard Koenig, est-ce qu'il y a un seul libéralisme? C'est-à-dire, au fond, est-ce que il y a une seule doctrine principale? Vous dites qu'il y en a plusieurs formes, mais est-ce que c'est des formes juste qui divergent par certains aspects superficiels, ou bien est-ce qu'il peut y avoir des grands clivages? Est-ce qu'il peut y avoir des seuils, par exemple, pour commencer par là, parce que vous l'avez cité, qui dirait que il y a des libéralismes modérés, des libéralismes radicaux, et puis peut-être des ultra-libéralismes. Est-ce qu'il y a des degrés pour vous qui expliquerait aussi cette réputation un peu sulfureuse, parce qu'on part toujours de l'extrême, oui, pour penser le modéré finalement.
Alors déjà, vous savez que un des premiers, disons libéraux, considérés a posteriori comme libéraux, c'est Condillac. Et Condillac avait écrit ce traité des systèmes, qui est un des premiers livres en fait contre l'idée même de système.
Le système.
Et par ailleurs, il avait écrit des essais pour le libre-échange et la liberté de commerce. Et quelque part, c'est assez cohérent. Il y a cette idée dans le libéralisme qu'on va refuser toute case quelque part et que on donne à tout une certaine flexibilité. Le libéralisme est une philosophie qui doute profondément, qui se questionne elle-même. C'est peut-être d'ailleurs sa faiblesse aussi. Et de même que on laisse passer les marchandises, on laisse aussi passer les idées d'une case à l'autre sans construire des systèmes qui sont trop étouffants. Après, il y a eu une grande rupture, je pense, dans les années 1970, puisque le libéralisme d'Adam Smith, c'est un libéralisme quand même extrêmement modéré.
Donc là, en économie, cette fois, Adam Smith, c'était...
Ah, Adam Smith, ça touche aussi à la morale.
Oui, hein, c'est vrai, ça touche à toutes
ça les... Ça touche à la politique, puisque c'est le début de l'économie politique.
À la philosophie, à l'anthropologie. Qu'est-ce qu'un homme, un individu qui est propriétaire de son corps, de son travail
Complètement, même si... enfin, c'est une autre question. Mais,
on va y revenir.
Mais en tout cas, bon, la philosophie d'Adam Smith, c'est une philosophie du gouvernement. C'est quelque part les libéraux qui inventent, à la fin du XVIIIe siècle, l'État moderne. Foucault, d'ailleurs, l'analyse, je trouve, splendidement dans son livre, qui est pour moi le meilleur livre qui a jamais été écrit sur l'histoire du libéralisme. Alors, si vous le décomposez en catégories, il faut relire Naissance de la biopolitique, ce dernier cours au Collège de France de 1979, qui est extrêmement lumineux, où lui, il distingue le libéralisme révolutionnaire fondé sur les droits, qui serait le libéralisme français, le libéralisme révolutionnaire français, le libéralisme radical au sens anglais, qui insiste beaucoup plus sur l'ordre spontané, qu'on retrouve ensuite de Burke à Hayek, et qui fait que, par exemple, Hayek déteste les libéraux français parce qu'il considère qu'ils sont beaucoup trop cartésiens, beaucoup trop radicaux, qui veulent tout changer, tout mettre sur une page blanche. Ensuite, vous avez les ordo-libéraux allemands, qui donc réhabilitent quand même l'idée de la régulation à la suite du colloque Lippmann de la fin des années 30, qui a beaucoup transformé le libéralisme en lui introduisant des éléments de justice sociale et également des éléments d'antitrust, d'intervention dans l'économie. Mais la dernière rupture que Foucault appelle néolibérale, mais on peut aller un peu plus loin, c'est les libertariens dans les années 70. Et là, on change radicalement de paysage avec les libertariens. Dans le libéralisme classique, on reste dans, l'État reste absolument important. Et la question, c'est la limite ou le rôle de l'État. Chez les libertariens, il y a une opposition entre la liberté et l'État. Et ça c'est véritablement différent comme structure de pensée.
C'est là que vous pensez qu'il y a une rupture. C'est-à-dire, au fond, Gaspard Koenig, pour vous, il y a un moment précis, une doctrine qui va trop loin, qui pense que, par exemple, qui va limiter le rôle de l'État, la limitation d'une liberté, le moment où elle empiète une autre. Donc l'État, c'est la sécurité, point final. Après quoi, l'individu fait tout ce qu'il veut avec sa liberté. Et peut-être je caricature, d'ailleurs, le néolibéralisme va peut-être encore plus loin, vous nous direz. Mais pour vous, c'est là que ça se passe. Il n'y a pas d'excès possible du libéralisme classique lui-même. Il ne peut pas y avoir, dans le libéralisme d'origine, un moment où il va trop loin, où il oublie, par exemple, que les individus ne naissent pas tout seuls, qu'ils ont besoin des autres, tout ce qui lui a été objecté par les philosophes, non pas seulement de l'égalité, mais de la solidarité, de la relation entre les humains.
Alors d'abord, c'est pas une histoire linéaire, puisque le laisser-faire manchestérien du début du XXe siècle a été largement remis en cause pendant la crise de 1929, ce qui a donné lieu au colloque Lippmann, qui a lui-même complètement transformé la doctrine libérale dans le sens d'un plus grand interventionnisme. Par ailleurs, je dirais pas que les libertariens sont excessifs ou qu'ils vont trop loin. Je dis simplement, on change complètement de paradigme, et il faut s'y intéresser aussi. Je suis pas du tout, je suis intéressé par la doctrine libertarienne.
D'accord. Donc pour vous, il n'y a pas forcément d'excès dans cette doctrine libertarienne. C'est une doctrine qu'il faut prendre au sérieux. Et du coup, je reviens sur ma question. Pardon, hein, Gaspard Koenig, mais je suis un peu insistant. Mais
allons-y.
Est-ce que dans la liberté, il n'y a pas aussi un moment où elle peut devenir systématique, où elle peut devenir excessive, où elle peut devenir doctrinale, quand elle oublie un autre aspect de la vie humaine, par exemple? Enfin, sans sacrifier le principe absolu de la liberté, est-ce qu'on peut pas en trouver certains usages abusifs?
Oui, mais vous voyez, c'est un peu comme les marxistes qui vous disent que l'URSS, c'est évidemment pas l'incarnation du marxisme, mais c'est quelque chose de totalement dévoyé. Je vais vous dire exactement la même chose pour le néolibéralisme des années 80, qui n'a plus rien qui s'inspire même plus d'une doctrine philosophique, mais qui est quelque chose qui dépasse largement ça, qui s'inscrit dans un mouvement de société, dans un combat politique, etc. Après, je pense qu'en termes de doctrine elle-même, quand vous lisez, par exemple, Hayek, pour moi, c'est quand même assez, c'est plus que sensé. Enfin, c'est très modéré. Il y a quand on le lit,
vous pouvez résumer justement c'est les deux trois grands principes que vous en tirez.
D'abord, c'est une philosophie anti-planiste qui écrit juste après la guerre pour décrire le nazisme comme une forme de centralisme absolu, en disant quelque part le centralisme génère toujours l'autoritarisme. Et donc, c'est lui qui va réhabiliter, enfin, en tout cas, qui va vraiment inventer philosophiquement l'idée d'ordre spontané, disant finalement, les Grecs opposaient l'ordre et le désordre, mais l'ordre, c'était les comètes, le désordre, c'était ce que pouvait faire l'humain. L'ordre spontané, ça va être l'ordre créé par l'innovation humaine elle-même. Et c'est lui qui, dans ce cadre, réhabilite Mandeville, comme le premier penseur libéral, qui a compris que c'est à travers le chaos des passions, des désirs, que l'on peut faire émerger une société et qu'il ne faut pas essayer de corriger la nature humaine, mais simplement de l'orienter gentiment vers des buts qui soient collectivement acceptables. Voilà.
Alors là, on est directement au cœur de la philosophie du libéralisme. Est-ce que vous pensez que orienter gentiment, ça n'est pas d'abord un peu contradictoire, parce que celui qui oriente, est-ce qu'il fait pas le rôle du centralisateur finalement? Et puis d'autre part, plus fondamentalement peut-être, dire que on est libre. Certains grands libéraux, Rousseau ou Kant, ont aussi dit qu'on était libre pour le mal et qu'on pouvait se nuire les uns aux autres et même que c'était inhérent à la liberté. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi considérer le mal comme intérieur à la liberté, pas seulement comme un risque, disons, accessoire et qu'un usage, si on laisse les hommes spontanément libres et si on ne bride pas leur liberté, on arriverait à l'équilibre.
Mais je pense que pour repartir de Rousseau, le mythe de l'état de nature des philosophes du 18e, Rousseau, mais aussi Locke et Hobbes, qui considèrent que finalement, et on vit toujours sur ce mythe, que les individus sont des petites entités autonomes qui se font la guerre ou bien s'aiment les uns les autres. Et après, grand débat 18e, justement, est-ce qu'ils sont par nature méchants, par nature bons? Mais toute l'anthropologie du XXe siècle nous a montré que cet état de nature était non seulement fictionnel, mais ne nous aidait absolument pas à penser la société, puisqu'il va à rebours de ce qui s'est véritablement passé historiquement, qui est que les sociétés anciennes, j'ose pas dire primitives, étaient extraordinairement cohérentes.
Vous voulez dire que l'état dont on part, ou l'état initial, disons peut-être pas de nature, mais l'état initial, c'est un état de groupe.
Où il n'y a aucune, quand vous lisez classe,
il n'y a pas des individus, il y a des groupes.
Quand vous lisez société contre l'état, c'est exactement ça. Il n'y a aucune autonomie. L'individu est marqué dans sa chair, dès le début, par l'appartenance au groupe, mais par des procédures de tatouage, de scarification, d'épreuves initiatiques, etc. Et donc, il y a quand même un argument qui peut être fait, vous donner une grande vision de l'histoire qui résumerait tout, mais il y a un argument qui peut être fait que quelque part, le progrès de notre civilisation, c'est d'arriver à émanciper peu à peu l'individu du groupe, à lui donner une consistance, à lui donner des droits, à lui donner la conscience de sa propre individualité. Et au fond, je pense que instinctivement, au-delà des grandes doctrines, le libéralisme et les gens qui se reconnaissent dans le libéralisme sont farouchement anti-grégaire. Et essaye toujours de penser comment est-ce qu'on peut permettre aux individus de vivre différemment, de suivre des routes différentes, d'épouser des valeurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et pourtant de vivre ensemble. Et ce que les libéraux vont tous rejeter, c'est l'idée d'un bien commun, de valeurs communes qui s'imposeraient au groupe. Voilà. Et après, que la liberté soit une construction, je pense que précisément, et je reboucle sur Rousseau, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est exactement l'inverse. L'homme né
dans les fers.
Dans les fers ou dans les fers de lui-même, si vous voulez. Ouais. Et toute l'idée de la construction sociale à laquelle j'adhère, c'est de lui donner autant de construire cette autonomie. C'est d'ailleurs même ce que Marx reprochait à la Révolution française, quand il disait à la Révolution française, essaye de construire des monades. Mais justement, c'est ça qui est beau. C'est de pouvoir que la société elle-même essaye d'émanciper l'individu de sa société. C'est cette dialectique-là qui est intéressante.
Oui, bien sûr, Gaspard.
sans sceptique, là.
Non, je suis pas sceptique sur le principe de l'émancipation, bien entendu. Au contraire, je pense que, effectivement, l'émancipation est le but de toute philosophie de la liberté et que la philosophie politique doit être une philosophie de la liberté. J'aurais là aussi deux questions pour prolonger cette discussion qui est d'abord au cœur de la philosophie et ça me paraît très très important. La première, c'est vous dites qu'on ne définit pas de but, que chacun fera ce qu'il voudra de sa liberté, mais quand même on dit peut-être l'homme est d'abord grégaire, mais il doit arriver à la liberté parce que la liberté est quand même finalement une essence de l'homme. C'est quand même, vous devez quand même postuler que nous sommes naturellement libres, même si, comme le dit Rousseau justement, l'homme naît libre, mais partout il est dans les fers. C'est-à-dire, en fait, nous sommes des êtres grégaires par défaut, peut-être par les limites de la nature humaine, mais notre nature profonde, c'est de nous libérer. Donc vous avez quand même une idée que notre nature profonde, c'est cette liberté fondamentale. C'est pas un reproche, c'est juste pour expliciter le problème.
Je dirais que c'est le seul but que peut se donner le législateur, quelque part. C'est le seul but qu'on peut se donner collectivement. C'est de faire en sorte que ceux qui veulent prendre le risque de cette liberté
puissent
le faire. Ouais. On va pas justement, contrairement à Rousseau, encore lui, forcer les gens d'être libres. Il n'y a rien de pire que cette formule. Mais on va s'assurer que celui qui a... C'est le principe de la liberté d'expression chez John Stuart Mill. C'est vous donner la liberté d'expression à tous les idiots, pour que s'il y a un génie qui dit quelque chose de formidable, lui ne soit pas tu. Parce que si on faisait taire un génie, alors on aurait raté toute l'idée même finalement de l'humanité, de vivre ensemble et de développer, de continuer quelque part l'évolution humaine. Je pense qu'il y a quand même dans le libéralisme une idée de progrès qui est, je sais, très contestée, qui a été très contestée au XXe siècle, mais l'idée d'un progrès possible en tout cas de notre espèce.
Je pense qu'il y a une puissance de cette idée de liberté telle que vous la retrouvez, telle que vous la décrivez, qui est une aspiration finalement à pouvoir aussi être soi-même, à cette expression, à ces activités dans le monde social. Peut-être que les obstacles qu'elle rencontre aujourd'hui, la défaveur qu'elle subit aujourd'hui, vient quand même peut-être du déni d'autre chose dans notre condition. Peut-être que si les sociétés sont des ensembles, si nous sommes liés aux autres, c'est parce que nous ne sommes pas seulement libres, nous sommes aussi fragiles, vulnérables, dépendants, parce que certains usent de leur liberté pour en effet nuire aux autres ou pour se nuire à eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce que vous faites de ces mots communs? Vous dites qu'il n'y a pas de bien commun.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes communs? Est-ce que la défaveur d'un certain libéralisme excessif, c'est pas d'oublier nos détresses communes?
Et là, je pense que
notre condition même.
Parce que quelque part, le problème que vous soulevez là, c'est le problème de l'égoïsme. Et Popper a fait un tableau assez simple que je trouve assez bon. Il dit l'égoïsme est le contraire de l'altruisme. L'individualisme est le contraire du collectivisme. Mmh. Mais ensuite, vous pouvez faire tous les couples possibles entre les deux. Vous pouvez être égoïste parce que ça, c'est de la morale personnelle. Et collectiviste en termes politiques.
L'égoïsme, c'est un choix libre parmi d'autres, finalement.
Enfin, en tout cas,
la liberté n'entraîne pas forcément l'égoïsme.
C'est une morale, comme une autre. Mais vous pouvez, pour moi, c'est la meilleure option, être individualiste en termes politiques, c'est-à-dire que votre structure sociale est faite pour permettre à l'individu de choisir ses valeurs, etc. Et être néanmoins, à titre moral, altruiste. Et la morale est d'autant plus importante, sera d'autant mieux valorisée, et la relation avec l'autre sera d'autant plus profonde que justement, elle ne sera pas médiée par l'État. Et je pense que une autre, c'est Lysander Spooner qui disait, les vices ne sont pas des crimes. Et inversement, je pense que un des grands buts du libéralisme depuis Kant, c'est d'arriver à cette séparation de la loi et de la morale. Quelque part, nos sociétés avaient des lois qui reflétaient une morale collective. Une morale qui pouvait être, par exemple, de nature divine. Et donc, on dictait les conduites des gens. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Et que, peu à peu, on dit, bon, la loi est là pour garantir la coexistence des individus, évidemment, pour traiter les problèmes communs, l'environnement, pour éviter les externalités négatives, donc quand vos actions nuisent à autrui, évidemment. Mais elle n'est pas là pour décider de la manière dont vous comportez. Et quelque part, le temps que nous vivons est aussi le succès du libéralisme, parce que toutes ces lois de libéralisation sur le mariage homosexuel, sur la PMA, sur l'usage du corps, montrent que peu à peu, on considère que la loi n'a pas à se mêler de ces sujets qui sont des sujets d'éthique personnelle. Et encore une fois, la morale, pour moi, c'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose d'ordre privé. Ou alors d'ordre civil, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous discutez en société. Mais si on pouvait ne pas discuter de la morale dans une enceinte parlementaire, ce serait beaucoup mieux.
Je comprends qu'on puisse éviter la confusion avec la morale, mais si on reste sur le terrain de la liberté, est-ce qu'elle n'a pas des conditions, Caspar Koenig? C'est-à-dire que vous décrivez les bons usages de la liberté, elle peut avoir elle a aussi des mauvais usages, finalement vous venez de les intégrer. Les vices ne sont peut-être pas des crimes, mais ils peuvent en entraîner malgré tout. Donc comment est-ce qu'on fait pour empêcher les crimes? Ça reste quand même une question pour le libéralisme, comme pour toute société. Mais plus fondamentalement, est-ce que nous naissons libres? Est-ce que Rousseau a raison finalement? Parce que un nourrisson, est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il ne faut pas lui donner les moyens de le devenir? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions concrètes, sociales, pour dire un mot qui, dans la grande tradition de l'Europe intellectuelle et dans la philosophie, a toujours été posée en complément, je dirais, du libéralisme, c'est-à-dire une certaine socialité?
Mais absolument. Le but du jeu, c'est de donner à l'individu les moyens de faire ses choix. Mais dans cette petite phrase, vous avez beaucoup de choses.
Bah oui.
Vous avez l'idée que, effectivement, l'État doit prodiguer l'éducation, par exemple, ou l'instruction plutôt, d'ailleurs, je préfère ce terme. Mais vous avez aussi l'idée qu'il doit permettre aux gens, de quelque part, de faire usage de leur libre arbitre, qu'ils soient éclairés d'un côté, mais de l'autre, que cela leur soit matériellement possible. C'est pourquoi, dans les choses que je défends, pour moi, l'idée d'un revenu universel, Et là, vraiment, je m'inscris dans la continuité de Philippe Van Parys, que j'admire beaucoup.
Oui, un des grands théoriciens du revenu minimum universel.
Qui s'est défini comme un réel libertarien, c'est-à-dire comment on donne la liberté réelle, qui reprend cette idée marxiste de liberté réelle dans un cadre libéral. Et pour moi, c'est beaucoup plus que une simplification du système social. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Vous donnez aux gens de manière absolument automatique et indestructible de quoi, au moins de quoi couvrir leurs besoins de base, au moins de quoi survivre décemment sans avoir besoin de ne rien donner en échange. Et ainsi, vous leur permettez de se construire eux-mêmes et de faire leurs choix. Et vous voyez, quand on disait séparer la loi et la morale, je trouve que le revenu universel est un instrument de cette finalité, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses qui sont interdites, parce qu'on dit, attention, il y a une contrainte économique qui peut s'exercer sur les gens, ils vont être obligés de faire ce choix. Donc plutôt que de voir ce phénomène se produire, on préfère interdire telle ou telle pratique.
Au lieu d'interdire l'activité, vous recommandez de permettre un choix.
Exactement, de permettre un choix alternatif. Donc pour prendre des sujets, je suis désolé, très sensible, très clivant, mais enfin prenons la prostitution. C'est ceux qui disent, mais regardez, ces femmes n'ont rien choisi du tout, ce sont des esclaves, et donc il faut interdire l'activité. Et dans les conditions actuelles, on peut dire soit. Mais en imaginant, et nous sommes dans un monde idéal, mais nous sommes philosophes, nous rêvons à un monde idéal, et puis après les politiques font ce qu'ils peuvent, mais en imaginant qu'il y ait un véritable revenu universel en place, et que bien sûr, ensuite, la police s'assure qu'il n'y ait pas d'extorsion, de spoliation, eh bien, on peut dire, à partir du moment où je donne à chacun le choix de vivre différemment, à ce moment-là, par miroir, les choix que vous faites sont des choix que vous devez assumer. Et donc, quelque part, le revenu universel fonde le libre arbitre dans le cadre d'une société ouverte. Ça, c'est vraiment l'idée de Van Parys.
Mais, alors, Gaspard Koenig, on vient d'entendre dans votre démonstration la force avec laquelle vous reliez une philosophie quand même très fondamentale, je voudrais le souligner, parce qu'il y a une très grande cohérence dans votre propos, et puis des enjeux très contemporains, on va en rencontrer beaucoup. En effet, la propriété du corps, les données dans le monde informatique d'aujourd'hui, la démocratie, disons, peut-être pas directe, mais concrète, locale. Dans vos livres que je citerai tout à l'heure, vous explorez les champions, les aventuriers de la liberté, comme vous dites dans l'un d'entre eux d'aujourd'hui, ceux qui l'incarnent sur des sujets concrets. Mais permettez-moi de revenir sur votre exemple un instant, avant d'ouvrir sur vos activités concrètes et ces enjeux très urgents. Vous dites, effectivement, on reproche à la prostitution de ne pas être une activité libre, un choix libre, parce qu'elle est contrainte socialement. Les prostituées, en général, sont celles qui n'ont pas les moyens, économiquement, sont celles qui n'ont pas les moyens de le faire. Et donc vous dites, donnons-leur les moyens. Et au moins, ce sera un choix libre et ça rejoint la philosophie de la propriété de soi-même, du corps que vous défendez. Mais pour leur donner les moyens, vous dites donnons-le revenu universel. Ce avec quoi, d'ailleurs, l'idée de revenu universel, je suis tout à fait d'accord. Pour qu'il y ait un revenu universel, il faut qu'il y ait des impôts, il faut qu'il y ait une société qui, malgré tout, s'organise socialement au nom d'une idée de justice qui n'est pas seulement la liberté, mais l'égalité universelle. Ça veut dire aussi, nous sommes libres et égaux. Mais donc,
absolument.
Je voudrais pas qu'on réduise, parce que là aussi, c'est l'étiquette qu'on vous colle souvent.
Oui, mais bon.
Le libéralisme, comme s'il n'y avait pas l'égalité, la société, les impôts, une organisation de la liberté.
Mais bien sûr, mais je suis assez cohérent dans ce que j'écris. Donc,
en fait, je dis des évidences, mais je pense que c'est souvent, ça vous est souvent, on oublie souvent ces aspects en vous parlant ou en parlant de vous.
Ben parce que les gens disent le libéralisme, ont une idée préconçue du libéralisme, l'appliquent indépendamment de ce que je dis au temps T, et puis ensuite déroulent leur propre argumentaire. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a une organisation de la société. Encore une fois, Adam Smith, c'est un théoricien de l'État, le rôle du gouvernement, le rôle du commerce, le rôle des impôts, des importations, des exportations, enfin de la balance commerciale, de la dette d'État. Enfin, ce sont des philosophies du gouvernement, évidemment. Encore une fois, les libertariens radicaux sont un peu différents.
Voilà.
Et certains vont jusqu'à l'anarcho-capitalisme. Attends, jusqu'à l'anarcho-capitalisme qui consiste à dire là vraiment
chacun pour soi finalement.
Enfin oui, en tout cas il doit pas y avoir de tissu social organisé politiquement. Bon, mais ça c'est vraiment une hyper minoritaire dans l'histoire du libéralisme.
C'est peut-être hyper minoritaire philosophiquement, mais est-ce que ça n'est pas en train de dominer notre monde? Par exemple, dans certaines doctrines ou même certaines politiques aux États-Unis aujourd'hui, où finalement on a l'impression que dès qu'on parle de solidarité, on est non seulement communiste mais totalitaire.
Oui, mais vous voyez, par exemple, moi, j'ai pas employé le mot de solidarité. Parce que je pense.
Ça va trop loin pour vous,
Oui. Enfin, en tout cas, je pense. Enfin, moi, je tiens l'argument de Nozick contre Rawls sur l'idée de justice sociale. Je pense que la justice sociale est un mauvais terme. Pour moi, le revenu universel n'est pas une question de justice sociale. c'est une question d'autonomie individuelle. Et c'est mais tout à fait différent.
Alors, qui part sans des instruments de justice sociale, malgré
bien
tout.
Bien sûr, ça, bien sûr.
Pourquoi avoir peur de cette notion?
Ça a comme conséquence une redistribution des impôts, vous l'avez dit. Mais la finalité n'est pas, par exemple, de réduire les inégalités. La finalité est de permettre à chacun de faire ses choix. Et c'est quand même tout à fait différent. Et je pense que la justice n'est pas sociale, mais ça, Hayek le dit aussi. La justice n'est pas sociale parce que la justice, c'est avant tout organiser l'égalité des droits, et une fois que chacun respecte le droit, alors toutes les morales sont possibles.
Donnez-lui quelque chose à manger, ou bien quelqu'un à embrasser, n'importe quoi pour l'occuper, pour le faire taire sans se fâcher. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute. Pousse-toi, laisse passer les anges. Elle est modeste, elle est timide. Tais-toi, tu gagneras au change. Faut se remplir quand on se vide. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Tu n'écoutes plus personne. Et plus personne ne t'écoute.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, toujours dans cette conversation avec Gaspard Koenig, dont je rappelle qu'il est à la fois philosophe et qu'il a fondé un think tank, entre autres activités de philosophe dans la cité. Gaspard Koenig qui nous a proposé un morceau ironiquement choisi pour son titre, Tu parles trop. Est-ce que vous pensez que dans cette conversation, l'un de nous deux parle trop, Gaspard Koenig? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous qui parle trop?
Les deux. Je ne sais pas, mais je pense que de manière générale, je parle trop, c'est sûr. J'ai toujours beaucoup parlé, beaucoup aimé parler, beaucoup aimé m'écouter parler. Et donc, je trouve que cette chanson est salutaire parce qu'elle nous rappelle qu'il faut parfois se taire, et comme il le souligne dans la chanson, sinon plus personne ne t'écoute. Et donc il faut aussi, c'est aussi ce que je fais dans mes reportages, apprendre à écouter les autres, à être en position neutre.
Oui, parce que vous êtes un libéral qui pense que chacun a quelque chose à dire, mais il faut quand même écouter les autres, il y a des relations. Vous avez plusieurs manières de parler, en fait, quand même. Là, on est en train d'avoir une conversation entre philosophie et politique. Vous avez un enseignement de philosophie à Sciences Po. Vous écrivez dans différents journaux, vous intervenez dans différents médias. Mais est-ce que votre activité première, ça n'est pas ce think tank que vous avez fondé, Génération Libre, et qui a porté, assumé cette idée de liberté avec le risque dont on a parlé en commençant, oui, qu'elle devienne un slogan.
Oui. Il y a un passage qui m'avait vraiment, vraiment marqué dans mes études de philosophie, qui est le Gorgias de Platon, où à un moment donné, Calliclès dit à Socrate, ah, toi, tu fais de la philosophie. Quand on est jeune, la philosophie, c'est bien. Mais après, c'est du babillage. Tu ne connais pas les lois de la cité. Tu ne connais pas la manière dont on fait des affaires. Et tu n'es qu'un enfant.
Tu n'as pas eu l'expérience concrète des humains.
Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et quand j'ai commencé à enseigner très jeune, trop jeune, probablement, je pensais qu'il me manquait justement cette expérience et que je voulais comprendre véritablement de l'intérieur comment ces choses marchent, parce que trop souvent j'entends dans des colloques de philosophes des gens qui parlent du marché du capitalisme, etc., mais qui au fond n'ont aucune idée de la manière dont le système bancaire actuel est véritablement organisé, parce qu'il faut un peu rentrer dans les détails, il faut se donner du mal, il faut mettre la main à la pâte. Et je crois beaucoup, en tout cas si on fait de la philosophie politique, après on peut faire de la philosophie des sciences, tout autre chose bien sûr, mais si on fait de la philosophie politique, je pense qu'il est important de se retrousser les manches, de mettre les mains dans le cambouis et de comprendre véritablement dans le détail comment marchent les des politiques publiques.
Vous avez voulu suivre cet aspect-là du conseil ou du reproche de Caliclès, mais dans la bouche de Caliclès, dans le Gorgias de Platon, c'est très violent, c'est anti-philosophique. C'est-à-dire, au fond, comment peut-on, alors que Socrate, lui, choisit d'étudier quand même les hommes dans la cité, comment peut-on encore faire de la philosophie à ton âge? Enfin, maintenant, il faut gagner de l'argent, il faut être riche. Caliclès, c'est le théoricien du droit du plus fort. Mais vous êtes resté quand même philosophe, un peu Socrate, quand même, malgré tout, en conseillant. Mais... think tank, ça veut dire conseiller, intervenir?
Mais précisément, ce que j'aime faire, et ce qui est maintenant clair dans ma vie, c'est cet aller-retour permanent entre les principes, les grands textes, et puis la réalité concrète, et d'apprendre à la connaître sous toutes ses coutures. Donc, le think tank, c'est une des manières de le faire, qui est évidemment plus polémique, plus engagée, parce que le think tank, lui, il traite de sujets d'actualité.
Alors, qu'est-ce que c'est un think tank, finalement, Gaspard Koenig? Parce que ça m'intéresse au titre, enfin, parce que je ne sais pas ce que c'est réellement, et puis parce que c'est un mode d'engagement philosophique tout à fait nouveau pour un philosophe, justement.
C'est vrai. Alors, les think tanks sont assez récents en France. Ça date de la fin des années 90, alors qu'ils existent en Angleterre. C'est d'ailleurs pour ça que le terme leur est emprunté à l'anglais, depuis les années 20, les années 30. Chatham House, ça date d'avant la guerre. Et je pense que la France est toujours appuyée, enfin les politiques françaises sont toujours appuyées sur l'administration, qui est bien formée et très nombreuse, pour leur fournir des idées. Mmh. Et que les philosophes, de l'autre côté, restent parfois dans une sorte de rhétorique assez vague. Et Tocqueville reprochait déjà ça, d'ailleurs, aux penseurs français. Il disait, dans l'Ancien Régime et la Révolution, « Ah, les écrivains français sont trop dans l'abstrait, et puis les hommes politiques ont trop le nez dans le guidon. » Et quelque part, un think tank essaye de mettre un pont entre ces deux mondes, de dire, bon, à partir d'idées qui sont vraiment des idées philosophiques, comme le revenu universel, on peut écrire 15 tribunes sur le revenu universel, on peut continuer à écrire des livres sur le revenu universel, mais on peut aussi demander à un économiste de faire des calculs précis pour comprendre comment, dans notre société, ça pourrait être mis en application. Et ensuite, sur la base de ce papier, qui est un papier complexe, un papier d'ailleurs dont je ne maîtrise pas tout, aller faire... du lobbying, pour parler vulgairement, auprès des médias, auprès des politiques, pour pousser cette idée.
Donc là, votre exemple est très intéressant, Gaspard Koenig, je trouve, parce qu'il donne une épaisseur à ce think tank. C'est pas juste vous-même, avec votre doctrine de la liberté, qui allez directement vers un programme politique, vers des politiques. L'exemple que vous venez de prendre sur le revenu universel, il y en a d'autres dont on pourrait parler, par exemple, j'imagine, sur la procréation. Vous demandez aussi des médiations savantes, des analyses, des études. Un think tank commande des études à diverses disciplines, construit un argumentaire pour une pensée. Entre l'idée et l'action, il y a un argumentaire.
Toujours. C'est-à-dire que jamais... D'abord, un think tank, c'est une structure professionnelle. Donc, il y a 5 personnes qui travaillent à temps plein dans un think tank aujourd'hui. C'est pas une bande d'amis qui se réunit pour essayer d'avoir des idées. Et on n'écrit jamais nous-mêmes. Moi, je n'écris jamais rien dans ce que publie Génération Libre ou alors une préface. Ce sont toujours des experts qui sont un peu miraculeux puisqu'ils doivent être assez, disons, originaux pour partager un peu notre ligne générale.
Oui, vous les prenez quand même en cohérence avec vos principes.
Et d'ailleurs, ça reconstitue des sortes de cercles des libéraux disparus qui est assez intéressant, ou d'ailleurs, ou des gens que ça ne dérangeait pas, mais qui n'avaient jamais vraiment réfléchi à la question et qui finalement s'y retrouvent. Après, ce sont des gens qui sont à la fois à peu près en ligne avec ce qu'on fait, même si sur certains sujets ils peuvent être en désaccord, c'est pas un parti politique, on n'achète pas tout, mais qui sont assez experts dans leur domaine pour être reconnus professionnellement, et qui donc, quand ils vont me faire un papier sur le chiffrage du revenu universel, vont être traités sérieusement par les services de Bercy, par la commission des finances de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui va regarder ce rapport en disant « Ah oui, effectivement, on pourrait le faire, on pourrait ne pas le faire. » Et c'est véritablement comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est d'ailleurs ce que disait Hayek au fondateur, dont on m'échappe après la guerre, de l'Institute for Economic Affairs, qui voulait faire un parti libéral en Angleterre. Il lui avait dit « Ne fais pas un parti politique, ça ne sert à rien. Crée un think tank, parce que c'est en menant la bataille des idées que, en aval, tu gagneras le combat politique. »
Est-ce que vous pensez, Gaspard Koenig, donc il y a les idées qui peuvent différencier votre think tank quand même d'autres think tanks. Par exemple, il y a des think tanks socialistes, je pense qu'il y en a encore, et je pense que c'est important. Il y a des think tanks libéraux. Est-ce qu'il y a aussi une différence dans le mode d'organisation? Si je pense à certains think tanks, en effet, plutôt, disons, sociodémocrates, ils vont se penser... J'ai l'impression qu'ils fonctionnent plus, c'est une intuition, hein, comme des groupes de type universitaire, disons, qui fournissent des études. Est-ce que vous diriez diriez que vous êtes cohérent dans votre pratique? Est-ce que votre think tank, vous le pensez comme une entreprise, comme une start-up aussi, comme une sorte de geste aussi de liberté matérielle, de liberté dans l'économie? Est-ce que vous, cette cohérence est importante pour vous?
Alors d'abord, ça m'a plu de lancer ma propre structure.
Voilà, c'est la cohérence de votre geste.
D'être quelque part entrepreneurial dans la pensée. Dans la réflexion. Après, sur le mode d'organisation du think tank, franchement, ce qu'on fait ressemble assez à ce que peuvent faire les autres think tanks, c'est-à-dire qu'on produit des rapports, on lève de l'argent, on va dans les médias. Bon, je pense que ce qui nous distingue, outre la nature même des idées qu'on défend, c'est que le corps doctrinal est vraiment très travaillé et très important. Alors que vous avez des think tanks où on peut publier un peu des choses assez différentes dans une certaine limite où le spectre est très large. Moi, c'est quand même, je ne veux pas que ce think tank trahisse mon idéal quelque part.
D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous combinez une sorte de libéralisme en pratique sur le modèle entrepreneurial, comme vous dites, puis en même temps une grande volonté doctrinale.
Oui.
Pour vous, le libéralisme n'étant pas juste une sorte de pratique, mais aussi une doctrine. Une des manières que vous avez de concilier tout ça aujourd'hui, c'est que vous avez écrit des essais théoriques, des romans. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un de vos genres d'écriture, c'est l'enquête mixte. Vous allez sur le terrain, comme vous dites, mais pour illustrer des points précis. Le premier tome que vous avez publié de cette série d'ouvrages, c'est des reportages philosophiques, au fond. Et est-ce que vous pourriez nous décrire, parce que j'ai l'impression que chaque chapitre est à la fois un portrait et un problème. Et à travers quelqu'un, vous essayez de traiter un problème. Par exemple, le premier des Aventuriers de la Liberté en 2016, c'est sur les hackers.
Ouais.
Et puis, à travers le portrait de groupe de hackers à Berlin, c'est la question des données, de la liberté sur Internet. Enfin, vous traitez une question générale.
En fait, l'idée de ces reportages, c'est un peu la, si vous voulez, ça décline un peu ce que je fais dans le think tank. C'est un aller-retour, pareil, entre les idées et la pratique. Dans le think tank, ça concerne la politique publique en France. L'idée des reportages, et d'ailleurs, je remercie Le Point qui me donne cette opportunité quand même assez incroyable dans le monde de la presse aujourd'hui, qui me donne carte blanche, en me disant, tu vas où tu veux, pour expérimenter, pour mettre des idées, à l'épreuve du réel. Et donc, si je défends le microcrédit, je vais voir comment ça marche à Lima, au Pérou. Si je défends l'entrepreneuriat, je vais voir les entrepreneurs au Rwanda. Si je défends la légalisation des drogues, je vais au Colorado voir comment se passe la légalisation du cannabis.
Ceci, Gaspard Koenig, c'est une thèse, en fait. Là, vous venez d'énumérer quelques-unes des thèses, quelques-uns des exemples concrets.
Mais à chaque fois, je vais voir comment ça se passe sur le terrain. Ouais. Et je prends une semaine ou 15 jours pour véritablement m'immerger dans une communauté, comme les hackers à Berlin, pour comprendre ce qu'ils font, pour les interroger. Je vais pas voir des libéraux ou des libertariens ou quoi. Je vais voir des gens qui peuvent avoir toutes sortes d'idées politiques. Mais mon but, c'est de comprendre comment ils vivent, ce qui me semble, moi, être une illustration de mes idées, ou les prisons, d'ailleurs, les prisons ouvertes en Finlande, ou pour le revenu universel, j'ai été voir un village au Brésil où il y a une association qui expérimente depuis de longues années le revenu universel. Et vous voyez comment les gens vivent avec ce revenu. Et c'est très intéressant. Et pour moi, ça confirme vraiment l'intuition. Alors là, sur la nature humaine, quelque part, que les gens font un usage rationnel et intéressant et très individualisé de l'argent qu'ils reçoivent. Donc, et franchement, ça m'a énormément fait respirer, d'abord de voyager à travers la planète, mais aussi d'écouter. On revient un peu à la chanson qui est à nous, parce que quand j'y vais, j'ai mon petit carnet de reporter, je suis journaliste.
Et vous les écoutez.
Et je passe des heures à écouter, à poser des questions très discrètes. J'essaye pas de défendre mes thèses ou de les convaincre ou quoi. Mais
ce qui s'en dégage pour vous, Gaspard Koenig, c'est quel paysage? Alors, en un double sens. D'abord, est-ce que vous êtes aujourd'hui, par ces voyages, ces rencontres, vous préparez votre troisième volume, le deuxième s'intitule Voyage d'un philosophe au pays des libertés. Est-ce que vous en tirez un certain optimisme? Il y a des gens qui créent des choses avec leur liberté. Mais en même temps, est-ce qu'il s'en dégage quand même une thèse globale? Parce qu'on a l'impression, certains ont beaucoup reproché au système de la charité privée contre celui de la solidarité sociale, d'être des petits briquets dans la charité dans les stades. Et puis ça remplace pas quand même une feuille de sécurité sociale. Donc, est-ce que pour vous, il y a un modèle global qui se dégage, ou bien est-ce qu'il faut renoncer à un modèle global, politique, national, étatique, et puis l'Europe, des organisations internationales, par exemple, au profit de, comme ça, ces initiatives qui peut-être vont font honneur à l'humanité, mais est-ce qu'elles vont la sauver dans le contexte grave d'aujourd'hui?
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je pense que toutes ces expériences sont universalisables. Et on me disait toujours...
C'est des modèles pour vous, finalement.
Oui. Et on me disait toujours, quand je revenais en France, ah oui, mais ça peut se passer qu'en Finlande, qu'au Pérou, etc. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a une école historique aujourd'hui avec Niall Ferguson et Acemoglu, qui vraiment rejettent fortement l'idée du culturalisme et qui disent qu'il importe, c'est le système d'incitation donné dans une société. Et après, indépendamment de la culture, les gens se comportent à peu près de la même manière. Et ça, j'y crois beaucoup. Je pense que la prison ouverte en Finlande, elle fonctionne aussi en Corse, il y en a une d'ailleurs, et elle fonctionne
donc,
aussi
en
Thaïlande.
C'est plus des contextes que des cultures. C'est-à-dire, c'est pas essentialisable. Il faut pas les essentialiser.
Absolument.
C'est des conditions concrètes.
Absolument. Absolument. Et j'en tire quand même une thèse générale, si vous voulez. Enfin, qui me renforce, je suis désolé, dans mes convictions. Parce que j'ai voulu aller voir comment, si vous voulez, c'est facile de dire qu'un entrepreneur, vous lui donnez de la liberté et c'est formidable, il innove. Bon, évidemment, c'est le plus facile. Ça sert à rien de le démontrer. Ce que je voulais voir, c'est comment les gens les moins privilégiés pouvaient utiliser la liberté. C'est pour ça que j'ai été voir les plus pauvres dans les banlieues de Lima, les prisonniers
en Finlande,
disait, oui. Les villageois au Brésil les drogués, si vous voulez, au Colorado. Et ce que je vois à chaque fois, c'est que quand vous mettez les gens, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont peu éduqués, dans une situation où ils peuvent prendre leurs responsabilités, eh bien, à ce moment-là, comme le disait Tocqueville, la liberté résout les problèmes posés par la liberté.
Mais alors, je reviens à ma question.
Très frappant pour les prisonniers.
Malheureusement, on arrive déjà presque au terme de cette conversation que j'aurais aimé prolonger. Vous revenez à l'idée de cette liberté individuelle, de ce qu'elle peut créer, mais ses conditions politiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la rhétorique qui s'en est saisie et qui l'a déformée, quand même, qui la rend compatible avec une certaine liberté économique, avec le communisme le plus totalitaire ici, avec le nationalisme le plus identitaire là, avec les injustices les plus criantes ailleurs, le retour de l'esclavage, du mépris des femmes, de beaucoup de choses. Est-ce que vous ne pensez pas que cette liberté a quand même besoin de nouveau de se construire un espace politique, un espace de justice?
C'est clair, mais quelque part, c'est aussi l'intérêt de faire mon travail. C'est que je pense que c'est assez urgent de reposer et surtout de réinventer le libéralisme dans le monde d'aujourd'hui.
Parce que liberté que n'a-t-on pas fait en ton nom, j'ai envie de dire.
Oui, mais dans les années 90, il y avait le consensus de Fukuyama, c'était merveilleux, le marché et la démocratie allaient main dans la main et allaient régner sur le monde. Maintenant, on est absolument dans une autre situation où ce qui gagne du terrain, c'est l'illibéralisme, très clairement.
Oui, qui est votre adversaire. Maintenant.
Et contre l'illibéralisme, on ne peut pas simplement dire « Ah ben, on va refaire du Fukuyama ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut réinventer, comme ça l'a toujours été d'ailleurs au fil des âges, pour l'adapter au progrès technologique, il faut réinventer beaucoup de pans de la doctrine. Et vous voyez d'ailleurs des essais qui paraissent, surtout en langue anglaise, qui justement essayent de penser le libéralisme et revenu universel, le libéralisme et l'abolition des droits de propriété, par exemple, c'est paradoxal, mais Glenn Whale le propose, libéralisme et intelligence artificielle, chez Harari, même s'il a un point de vue très pessimiste. Et donc, il faut l'adapter aussi au sujet du monde de demain. Par exemple, une des thèses qu'on défend très fortement dans mon think tank, c'est la propriété privée des données personnelles, en disant face à l'exploitation véritable dont nous sommes victimes par les géants de l'Internet, eh bien, nous devons non seulement récupérer le contrôle sur nos données, ça c'est l'idée du législateur européen, du RGPD,
mais la propriété privée
des données.
Ce qui ouvrirait tout un débat, malheureusement, Gaspard Koenig, on le gardera pour une prochaine conversation, mais ce que je pense qu'on entend, c'est que pour vous, la situation qu'on vit réclame non pas une critique du libéralisme, mais son renouveau. C'est un renouveau peut-être critique, mais un renouveau contemporain.
Comme ça a toujours été le cas dans son histoire, il a toujours été critiqué. Il a commencé d'ailleurs par une critique, puisque c'était Boisgilbert contre Colbert. Il a toujours dû se réinventer.
Et vous pensez que c'est possible? En un mot.
En tout cas, moi, je vais y travailler. Et le sujet qui va être central, me semble-t-il, au XXIe siècle et que j'aimerais bien mettre en avant de manière plus cohérente que les libertariens, c'est celui de la propriété de soi.
On vous attend là-dessus, Gaspard Koenig. Merci beaucoup.
Merci, Frédéric Worms.
Matière à penser, c'était notre quatrième conversation avec les philosophes engagés dans la cité, ce soir avec Gaspard Koenig, grâce à Marie Lepeintre, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms, qui vous donne rendez-vous demain pour notre dernière conversation de la semaine avec Vincent Payon.